chercheur oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de l'écrivain, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous dans cet espace d'échange et de partage. Les changements prévus dans le projet de réforme du code minier soumis au Parlement congolais seraient extrêmement préjudiciables à l'industrie et de ce fait à l'économie congolaise. Cette déclaration a été rendue publique le lundi dernier par Marc Bristow, président du conseil de la mine de Kibali et directeur exécutif de la compagnie minière Randgold, lors d'une conférence de presse. L'État prend 50% des bénéfices sur les investissements de l'entreprise minière et avec ça, rien ne va marcher car personne n'acceptera de venir investir dans ce contexte, a-t-il ajouté. Une autre opinion estime plutôt que cette démarche constitue effectivement un droit de l'État et de ce fait, la révision de cette disposition n'est pas opportune. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Jean-Claude Siala. Julie César assure la réalisation et Pierrot et Lamé, je vous les présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et tout à l'heure, nous allons avoir le professeur Donna Kampata, coordonnateur de la cellule technique des coordinations minières au ministère des Mines, avec qui nous allons nous échanger autour de cette question. Mise en vigueur depuis 2002, le code minier de la RDC a été sujet à plusieurs controverses. La société civile, les mandataires miniers, les opérateurs économiques et plusieurs personnes avaient souhaité la révisitation de ces codes, estimant pour la société civile que sa mise en vigueur n'a pas profité à la population congolaise, c'était plutôt les sociétés minières qui ont bénéficié de l'application du code minier. Alors, il faudrait plus de 10 ans après le révisiter, ce que le gouvernement avait déjà entamé. Mais du côté la Fédération des entreprises du Congo, la Chambre des mines estime que la révisitation du code minier en ce qui concerne la fiscalité, celle qui est prévue dans le projet qui va être en discussion au Parlement, cela ne va pas bénéficier aux sociétés minières, mais ça va plutôt décourager les investisseurs. Cela a été annoncé par Marc Bristow, comme je venais de le dire, président du conseil de la mine de Kibali et directeur exécutif de la compagnie minière Randgold lors d'une conférence de presse ici à Kinshasa, où il estime que l'État prévoit de prendre 50% des bénéfices sur les investissements de l'entreprise minière et avec ça, rien ne pourra marcher et ça risque de décourager les investisseurs. Une autre opinion estime plutôt que cette démarche constitue effectivement un droit de l'État et on devait garder la discrétion en tant que telle. Voilà comment encore la révisitation du code minier peut diviser les uns et les autres dans la compréhension. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315. Bien avant que nous puissions recevoir notre invité, nous avons Maître Adrien qui nous appelle de la ville de Kananga, c'est au Kasaï central. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Thierry Lamenji, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute. Pour vous, comment comprenez-vous d'abord cette interprétation? Il y a eu beaucoup de voix qui s'étaient élevées, on a eu beaucoup d'émissions dans Parole aux auditeurs où beaucoup de personnes souhaitaient la révisitation de ces codes, mais la révisitation elle-même amène encore à un autre débat. Tout dépend de dans quel camp on se retrouve, Maître Adrien.
Merci beaucoup Thierry pour la parole que vous m'accordez. Je pense que je suis parmi quelques Congolais, quelques rares Congolais bien évidemment, qui voulaient à tout prix donc la révisitation de ce code minier. Parce que je me suis dit, heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde ou bien le gouvernement a compris que ça bénéficiait beaucoup plus aux sociétés minières par rapport au gouvernement congolais. Je disais que le code minier et le code d'investissement, ce sont ces codes qui donnaient plus d'avantages donc aux investisseurs, aux sociétés, qu'à l'État lui-même. Donc la République démocratique du Congo se retrouvait à ce stade-là le seul pays au monde qui ne tirait pas profit à tous aux activités qui étaient faites dans son secteur, donc dans le secteur minier. Maintenant, le vrai problème par rapport à ce qui est soulevé comme débat par nos amis de la société civile, moi je pense qu'ils ont totalement tort. Cette réhabilitation est la bienvenue. Pourquoi ? Parce que l'État congolais doit d'abord commencer à capitaliser toutes les ressources. Parce que comment pouvez-vous comprendre ? La République démocratique du Congo, c'est un pays classé parmi tant d'autres pays là où on exploite les mines, les différents minéraux, mais le gouvernement lui-même ne tire pas profit. Moi, je ne vois pas un péché parce que lorsque nous lisons ces projets-là, le gouvernement congolais aura droit à 50%. Moi, je pense que c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Ça pourra aider les pays à se développer et à voir aussi comment est-ce qu'il faut aider certains secteurs qui se trouvent en difficulté.
Oui, mais maître Adrien, avant que vous puissiez aller au deuxième volet de votre intervention, je me rappelle encore au mois de mars, la FEC avec la Chambre de Mines a estimé que ces codes, pour reprendre les termes utilisés, ont dit que la RDC a été les grands bénéficiaires parce que la FEC estime que, après plus d'un milliard de dollars versés dans les trésors publics par les entreprises minières, la RDC est passée devant la Zambie en termes de producteurs de cuivre. La RDC a permis la croissance, la production a été supérieure à ceux des deux autres pays miniers de la région. Et du côté, là, on estime qu'on devait garder la fiscalité estimée exprimée dans ces codes tels qu'ils. Alors là, vous ne comprenez pas que le problème, ça risque d'être la vision qu'on a selon l'intérêt qu'on tire de ces codes miniers, maître Adrien.
Non, Pierrot, je veux bien, par rapport à ce que la FEC avait dit autrefois, mais maintenant, si la FEC a eu le courage de vous dire que 1 milliard entre dans la caisse de l'État, mais posez la même question à la FEC, qu'elle vous dise combien les investisseurs, donc que ce soit étrangers ou bien nationaux, tirent profit par rapport à des intérêts. Donc, leur intérêt était largement supérieur aux intérêts tirés par le gouvernement congolais. Moi, je pense que si nous nous mettons tous, si nous regardons cette question-là avec pas trop de passion, pas trop d'état d'âme, vous allez vous rendre compte que vraiment la révisitation est nécessaire. Donc, pour revenir maintenant à mon raisonnement, je disais que le code là, c'est un code qui accordait des avantages aux investisseurs. Maintenant, la FEC pouvait maintenant aider aussi le gouvernement congolais à dire que voilà, si le gouvernement vous bénéficie 1 milliard de plus que la Zambie et de plus que certains pays, mais nous et les investisseurs, on sait que nous bénéficions comme intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse trouver une issue au lieu qu'on puisse accorder peut-être 50% au gouvernement congolais, mais qu'on puisse accorder, par exemple, un tel pourcentage, parce que les 1 milliard dont la FEC faisait allusion représentait combien ? Représentait à peu près 20 ou 25% donc d'intérêt. Donc c'est ça la vérité dans ce dossier-là. C'est pour cela, Pierrot, moi je pense que cette révisitation, non seulement elle est importante, mais elle tombe aussi à point nommé. Pour voir comment est-ce qu'il faut régler certaines choses.
Merci beaucoup, maître Adrien, c'est important. C'est ce que même les opérateurs miniers, en ce qui concerne la FEC, ont souhaité qu'ils soient associés et par le gouvernement à toutes ces discussions autour de ces codes. Nous avons Chris Mutombo qui est ici à Kinshasa. Chris, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Oui.
Voilà, on vous écoute. Chris, quel est votre point de vue par rapport à ces prises de position?
Oui, moi je crois que pour cette thématique, je suis d'accord que l'État puisse demander, n'est-ce pas, son droit pour, à ce qui concerne ces pourcentages de 50%, parce que nous sommes dans un système mondial qui est régi par un intérêt, donc gagnant-gagnant. Donc, vous ne pouvez pas investir dans un pays aussitôt il n'y a pas, n'est-ce pas, des pourcentages que vous devriez à ce pays-là. Prenons par exemple le cas des Chinois qui sont venus investir au sein de notre pays. Donc, le fait que ces derniers ont respecté les engagements qu'ils auront pris avec l'État congolais, ils fonctionnent au sein de notre pays donc avec toute liberté, et nous aussi les Congolais, nous sommes en train d'opérer avec eux. Donc, à ce qui concerne ces pourcentages-là, je suis d'accord que l'État puisse demander à toutes les entreprises expatriées ces 50%-là. Alors moi, je dois souligner sur l'application de ces pourcentages. Alors pour que l'application soit judicieuse, voici les astuces que je propose.
Mm-hmm.
Le premier astuce, donc ces pourcentages doivent être imputés, donc attribués dans le secteur populaire. C'est-à-dire quoi? La population doit se jouir et réjouir de ces pourcentages ici, donc à ces entreprises expatriées. Donc le deuxième astuce, la transparence dans ces pourcentages. Donc voilà un peu ces astuces que j'ai voulu remettre par rapport à ces thématiques du jour.
Merci beaucoup Chris. Vous estimez que nous devons être dans un système gagnant-gagnant où l'État congolais doit en principe bénéficier de ces 50% des bénéfices sur l'exploitation minière, mais il faudrait une transparence dans la gestion de la part qui doit revenir à l'État congolais, et surtout en ce qui concerne les secteurs, n'est-ce pas? On doit allouer cela pour que ça réponde aux besoins de la population. C'est ça qu'avait souhaité la société civile hein, qui intervenait pour dire que le code minier dans son état actuel ne permet pas à la population de bénéficier de l'exploitation minière. C'est pour cela qu'il fallait complètement le revisiter. Mais vous souhaitez qu'il y ait la transparence dans que ce soit l'attribution de l'exploitation, mais aussi dans la gestion de ces 50% des bénéfices qui doivent revenir à l'État congolais. Merci beaucoup, Chris Moutombo. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, Monsieur Pierrot, et bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, par rapport à la thématique, Monsieur Pierrot, vous savez que nous tous nous faisons cette révisitation du code minier, mais il y a deux points là où nous insistions. Ce n'est pas du fait qu'aujourd'hui, l'État congolais peut demander 50% de bénéfices aux miniers. Ils vont faire tous les investisseurs. Quel est cet investisseur-là qui peut venir ici pour se partager des bénéfices avec l'État congolais? Ça ne peut se passer nulle part. Or, l'État congolais, par rapport aux clauses des contrats, il y a des entreprises à payer des impôts dans les contrats que les entreprises signent avec l'État congolais. Il y a un contrat social. Et ce contrat social doit être suivi de près pour que l'environnement dans lequel a été conçu ce projet-là, minier et consort, que cette population autochtone puisse bénéficier. Et il y a la construction des écoles, il y a la construction, il y a l'addiction d'eau potable, il y a l'électrification de cet endroit-là, il y a la scolarisation, tout ça. C'est dans ce contrat social. Mais si nous avons estimé qu'on peut réhabiliter ce contrat, c'est par rapport au contrat léonin, c'est par rapport aux carrières qui sont redistribuées au privé, au détriment même des creuseurs qui ne sont autres que les peuples congolais. On vient aujourd'hui, on débarrasse, on enlève tout le monde dans cette carrière-là, aussi tant que ça leur servait de survie. Et cette population se trouve abandonnée à leur sort. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre le banditisme en Lubumbashi, puisque à tout moment que les créateurs sont dans l'île, au profit d'un seul individu, et combien de pourcentage, combien d'impôts que cet individu la paye. À titre illustratif, M. Pierrot, je vous dirais ceci. Il y avait une entreprise, une entreprise au niveau de Lubumbashi Quantum, qui a voulu payer l'impôt d'une manière officielle 80 millions de dollars. Ça suscitait des problèmes. Et il y a même eu résiliation de ce contrat-là. Combien de Congolais sont partis en chômage à cause des tarifs-là du gouvernement? C'est à ce niveau-là que nous voulons qu'on puisse revisiter le contrat. Ce n'est pas pour autant que est-ce que l'État congolais devient associé à ces entreprises-là. Non. À la soumission de ce contrat-là. Il y a des préalables. L'État congolais doit poser ses préalables en matière d'impôts, en matière de taxes. Parce que j'ai vu ici les entreprises au niveau du Haut-Katanga intervenir dans la construction d'eau, intervenir dans la distribution d'eau, intervenir dans l'électrification de certains coins. Et il y avait toujours des réunions qui se tenaient à l'hôtel Caragolcri avec le gouverneur de la province pour persuader ces entreprises à donner quelque chose. Les entreprises donnaient. Alors moi je vois mal comment une entreprise peut-être comme Tenshapungurume acceptera de se partager des bénéfices avec le gouvernement congolais à 50%. Ça, c'est pour encore préjuger la population congolaise qui souffre autant et que cette population se retrouve encore à chômage, puisque les investisseurs sont partis. Puisque quand un commerçant vient investir, c'est pour d'abord ses propres intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt d'abord du gouvernement. Et il ne veut pas, une entreprise ne veut pas investir de son propre gré. C'est avec l'autorisation du gouvernement. Mais comment sont établis ces contrats-là? C'est à ce niveau-là que nous avons voulu que ces codes de milieu soient révisités. Ce n'est pas pour autant que, pour ce qui concerne la révisitation, qu'on se base seulement à l'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais hormis ce bénéfice-là, qu'est-ce que l'État congolais a imposé à ces bénéfices pour que la population puisse se retrouver? Est-ce que ce bénéfice profitera à la population? 50% des bénéfices. Je ne crois pas, je ne suis pas. Il faudrait que l'État congolais puisse réviser. D'ailleurs, c'est tombé à peine du fait que les députés qui sont en train de nous suivre ne puissent pas laisser passer ces projets-là. Parce que ça va créer encore des chômages. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même le Premier ministre aurait dit qu'il y a une avancée considérable en ce qui concerne le chômage, tout ça. Mais c'est faux. Et moi, je vis dans une province minière, là où il y a au moins 80% de chômage. Mais si maintenant on voudrait endurcir de ce côté-là, c'est pour créer encore en profondeur ce chômage-là.
Voilà. C'est important ce que vous avez dit. Voilà. Merci beaucoup, Maître Sonville. Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous êtes à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Vous estimez qu'aujourd'hui, le problème de la révisitation du code minier, ce n'est pas autour du bénéfice que l'État congolais doit se partager avec les investisseurs, les industries, n'est-ce pas, dans l'investissement minier, mais c'est plutôt au niveau de l'attribution des concessions minières et des carrés. Il fallait révisiter ces codes pour en ce qui concerne la signature des contrats léonais, par exemple, en ce qui concerne le respect du contrat social, et vous estimez que la part de l'État congolais doit rester dans la fiscalité normale en ce qui concerne l'impôt, les redevances que ces entreprises doivent payer, mais le problème de la révisitation doit plus concerner l'attribution de marché, la part des trésors et artisanaux, et aussi les contrats sociaux que ces entreprises doivent respecter. Et vous avez rejoint M. Christophe du conseil de la mine de Kibali, de la compagnie minière Angold, qui estime que s'il faudrait que ces entreprises se partagent le 50% du bénéfice avec l'État congolais, cela risque de décourager d'autres investisseurs dans les secteurs. Merci beaucoup, Maître Sonville. Maître Trésor, vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, c'est Maître Ricole, Alexandre.
Voilà, vous avez suivi Maître Sonville, lui qui estime que la révisitation doit plus concerner les cas d'attribution de marché, des concessions minières, des carrés, tout cela, là où le véritable problème se pose, parce qu'il y a des populations qui ont été délocalisées, et des fois, les populations locales qui ne bénéficient pas tellement de l'exploitation minière dans leur milieu, et c'est à ce niveau-là qu'on doit insister dans la révisitation. Mais le problème, ce n'est pas le fait de se partager 50% des bénéfices avec les entreprises minières, comme on a vu cela faire peur aux investisseurs du secteur minier. Quel est votre point de vue?
Très bien réfléchi. Je pense qu'il faudrait éviter de ce pays à l'époque de la réorientation. C'est à peu près la même chose. Parce que, après la réorientation, avec ce qu'il y a eu, radicalisation, rétrocession, on a cédé au pays quatre principes d'association. Et quel principe est également combattu par la SEC, où toutes les entreprises par les expatriés devraient constituer aussi par une grande partie des nationaux. Et donc c'est une façon de maintenir la organisation et de manière dédiée. Alors aujourd'hui, dans le secteur minier, on veut encore imposer cette situation qui a longtemps déchiré le pays et aujourd'hui l'économie pose beaucoup de problèmes à cause de ces phénomènes. Moi, je pense qu'il ne serait pas honnête de laisser la RDC s'imposer sur les investissements privés en se payant ces 4%. Ça, c'est vraiment injuste. On peut bien modifier le code minier de 2002. Le problème, c'est qu'on a dit là, au niveau de la conclusion des contrats, il y a un débat, on dit chacun pour ses propres avantages, on discute que finalement on aboutit à un compromis. Aussi, c'est au niveau de la faisabilité. La gestion de ce qu'on a déjà réalisé comme recette dans le secteur minier. Qu'est-ce qu'on en a fait, cet argent? C'est un problème. On ne peut pas aller vite en besoin pour dire que l'État ne bénéficie rien dans ce secteur. Mais le peu qu'on a déjà bénéficié, hein, on ne se fait pas ici devant un tribunal pour commencer à poser des questions aux gens. Mais moi, je pense que le Parlement doit d'abord dire à tout le pays qui voici, dans nos enquêtes qui nous permettent de promener les rapports produits, ce qu'on a produit dans ce secteur, pour cette ride, on en a fait, c'est tout cela. Alors, vu que cet argent produit n'a pas permis au pays de réaliser certaines actions telles qu'il est voulu, il serait souhaitable et avantager un peu l'État. Sinon, on risquerait de battre en bêche l'idée qui tient de la création du code minier des industries. Parce que dans son exposé des motifs, il est dit quelque part qu'une législation promulguée après l'indépendance de la RDC depuis 1967 n'avait pas attiré les investissements, mais qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques et que les réjouissances citoyennes qu'elles avaient organisé n'était pas incitatif. Alors maintenant, on veut faire le contraire de ce qu'on avait voulu faire à l'époque. On a fait produire des équipes pour inciter les investissements, pour attirer les investisseurs. Et maintenant, avec les 50% qu'on va défalquer sur les bénéfices de ces investisseurs, je crois que celui qui a dit que les investisseurs ne tiendront pas a raison. Puisque pour pallier que le législateur avait tenu à mettre sur pied ce code. Maintenant, on veut faire une contradiction pour essayer de partager certaines personnes dans l'ombre. Je crois que ce n'est pas assez surprenant.
Merci beaucoup, Maître Likonza. Merci. Merci beaucoup, Maître Likonza. Vous avez peur qu'on puisse tomber dans les erreurs du passé en parlant de la zarianisation, de la radicalisation, ce qui a fait aujourd'hui qu'on a connu beaucoup de problèmes sur les plans de production, sur les plans économiques. Et vous estimez, et vous aussi, que le problème aujourd'hui ne réside pas dans combien de pourcentage l'État doit prendre sur l'investissement. Mais ce qui est aussi important, c'est que la population soit informée de ce qui a été fait de rédévance minière payée jusqu'avant le débat sur la révisitation de ces codes. Vous avez même souhaité voir les parlementaires mener des enquêtes et dire à la population les 1 milliard versés, autant des millions versés dans les trésors publics en provenance des exploitations minières ont été utilisés. À quelle fin? Mais il ne faudrait pas que la révisitation du code puisse encore conduire au découragement des investisseurs en ce qui concerne la mainmise de l'État en termes de partage de bénéfices sur l'investissement. Et vous souhaitez, comme le disait tout à l'heure Maître Sonville, que l'accent soit mis sur l'attribution des concessions, des exploitations minières dans la transparence et la loi devait être révisitée. En cette matière-là. Merci beaucoup, Maître Trésor Likonza. Professeur Ignace, vous nous appelez de Colésie, dans la province des Lualaba. Merci de nous avoir rejoint dans cette émission. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, merci pour le sujet. Je voudrais commencer, je vais faire une petite analyse sociologique. Mm-hmm. En fait, il est souvent dit que la RDC, c'était une chanson, c'était un scandale géologique. Moi, je pense que ce terme-là est resté, mais on n'a pas réussi. Du moins avant, avec la Gécamine, d'une manière générale, la NIBA, nous avons réussi à transformer les potentiels miniers en richesse. Mais cela n'a pas fait long feu. Au point que nous étions obligés, par manque d'argent, ça il faut le reconnaître, la RDC n'a pas d'argent. Nous avons dû recourir aux investisseurs étrangers. Nous aspirons à l'émergence, mais pour arriver à l'émergence, il faut assainir le climat des affaires. Voilà encore un problème qui va salir le climat des affaires, au point que nous allons faire une marche arrière. Je ne sais pas le plaidoyer des miniers, mais je voudrais dire, sociologiquement parlant, entre le propriétaire de ressources et celui qui met en valeur les ressources, on ne se partage pas kiff-kiff, 50-50, non. Celui qui met en valeur les ressources a un plus par rapport au propriétaire de ressources lors de partage. J'estime que pendant qu'on demande aux entreprises minières de remplir, de respecter le cahier des charges par rapport à l'impact social de l'implantation des entreprises, je pense qu'on devrait réfléchir deux fois. Quand on parle d'un contrat gagnant-gagnant, il n'est pas dit de facto que c'est 50% à chacun. Non. Il faut nous dire que quand on parle d'un contrat, généralement, c'est un accord. On doit se mettre ensemble pour évaluer ce que l'une ou l'autre des parties devra tirer quelque chose à la satisfaction de toutes les deux. Mais à l'allure où vont les choses, j'estime qu'on est allé trop vite. On cherche à imposer ceux-là qui viennent, qu'on le veuille ou pas, nous aider à nous relever parce que nous n'avons pas d'argent. Je pense qu'on doit se mettre autour d'une même table, réfléchir, discuter. Mais un petit bémol que je veux aussi ajouter, c'est au niveau de la création de l'emploi. Il y a certains emplois que les miniers devraient laisser aux mains des nationaux. Je suis très gêné de voir, par exemple, des maçons, des chauffeurs dans les entreprises minières qui sont étrangers. Vous voyez que ce sont des choses qu'on devrait réparer. Donc le problème, j'insiste, je fais mienne les préoccupations de mes prédécesseurs qui insistent sur la redevabilité des revenus des entreprises minières que l'on remet à l'État et par rapport à l'investissement sur le plan socio-économique du pays. Voilà à peu près mes préoccupations.
Merci beaucoup, professeur. C'est clair, vous êtes revenu sur la redevabilité. Je crois bien il y a un maître Trésor qui a évoqué le rôle des députés hein, dans cette situation sur les enquêtes, la clarification de ces revenus, le rôle que cela joue au sein de la population. Mais vous avez beaucoup insisté sur le fait aussi que dans la révision du code minier, on devait tenir compte, n'est-ce pas, de métiers qui devaient en principe revenir aux nationaux dans l'investissement minier, mais sans oublier aussi que l'investisseur doit quand même avoir la primeur en termes de valeur chiffrée. Mais qu'on n'oublie pas les débats sur le cahier de charges de la population locale dans l'exploitation minière, c'est vraiment important. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure le rôle de député, nous avons un député national qui nous a appelé, c'est Maître Nkoulou Paty, on va vous accorder la parole. Nous rappelons à nos auditeurs que le code minier de 2012, des grands principes étant révisités, les projets déposés au niveau du Parlement divisent au sein de l'exploitation minière, par exemple, Monsieur Marc Bristow, président du conseil de la mine de Kibali et directeur exécutif de la compagnie minière Ingold, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, a estimé que ces codes révisités, si jamais il est adopté et promulgué, ne pourra pas favoriser l'investissement minier, pourra plutôt décourager les investisseurs, parce que là, l'État propose de prendre 50% de bénéfices sur les investissements miniers. Une autre opinion estime que l'État est dans une démarche normale et que cette disposition n'a pas l'opportunité d'être révisitée. Qu'en pensez-vous par rapport à ces deux prises des positions 081-890-735, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Maître Nkoulou Paty, vous êtes député national, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour.
Oui, allô.
Allô, bonjour Maître Paty Nkoulou.
Bonjour, monsieur le journaliste de la radio Kapi.
Vous avez suivi depuis le début de cette émission cet échange avec les compatriotes autour de la révisitation du code minier, la question qui divise les uns estiment au niveau de la FEC que si jamais la fiscalité est revue, cela ne va pas profiter aux investisseurs. Mais dès lors, déjà, la société civile avait pensé que les codes miniers dans son état actuel ne profitent pas à la population. La FEC estime que le gouvernement en a profité dans son état actuel. Voilà. Et comment commentez-vous ces différents points de vue autour de ces codes miniers?
Allô?
Allô, on vous écoute, monsieur. C'est dommage, on a perdu le député qui était en ligne avec nous tout à l'heure, la réalisation pourra voir comment on le récupérer. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081-890-7315, autour de la réalisation du code minier. La société civile avait souhaité 10 ans après que ces codes miniers soient révisités car ils ne profitaient pas à la population, mais les exploitants du secteur minier estiment, eux, qu'on ne devait pas toucher à la fiscalité qui permet bien sûr à l'État congolais, comme l'année passée, d'avoir fait rentrer dans les trésors publics près $1 milliard d'investissement du secteur minier. Plusieurs intervenants dans cette émission depuis le début ont estimé comme le maître Adrian qu'il serait mieux que la discussion soit engagée entre les investisseurs dans les secteur minier ainsi que le gouvernement pour trouver des termes clairs, n'est-ce pas, qui puissent mettre tout le monde d'accord en ce qui concerne le pourcentage de bénéfices que l'État devait tirer dans l'investissement minier. Chris de Kinshasa a estimé qu'il faut travailler dans un partenariat gagnant-gagnant, mais pour lui, ce qui est important, c'est d'instaurer un mécanisme de transparence pour que la population se rende compte de redevances qui sont payées dans le secteur minier et de leur utilisation. C'est les points de vue aussi partagés tout à l'heure par maître Likonza de Kinshasa et le professeur Ignace Ndala qui nous a appelé des Colusies dans la province de Lualaba, qui estime qu'il faudrait tenir compte de la redevabilité au niveau du pouvoir public pour que ces recettes minières profitent à la population. Maître Sonville, lui, a insisté sur la révisitation en fait, qui concerne l'attribution du carré minier, des concessions d'exploitation, les droits des créateurs artisanaux dans les différents milieux où le minerai sont exploités, mais les respects aussi du cahier des charges signé entre les populations locales et les sociétés d'exploitation minière. Mais tout cela, comme le disait le professeur tout à l'heure, doit faire objet d'un débat entre les investisseurs dans les secteurs miniers, la société civile, ainsi que les gouvernements. 081-890-7315, le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amé.
Voilà, nous revenons dans ces studios, nous continuons avec parole aux auditeurs dans la deuxième demi-heure consacrée bien sûr aux pistes et des solutions par rapport au point de vue des uns et des autres sur la révisitation du code minier. C'est l'instant, vous êtes ici à Kinshasa dans la capitale, merci de vous être joint à nous. Je crois bien la réalisation pour voir comment récupérer Maître Nkulupati, le député national avec qui on était tout à l'heure en ligne, on l'a perdu, un problème, un petit souci entre le studio et sa ligne téléphonique. Célestin, en attendant, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue, Célestin? Bonjour.
Oui, bonjour, mon frère. Bon, mon point de vue à ce qui concerne ce débat, je suis pour que l'État congolais puisse alors résister au code de l'Union. Pourquoi je le suis pour? En réalité, peu importe ce que les gens peuvent penser à ce qui concerne l'État de l'État. L'État est toujours bénéficiaire de ce qui est ses matières. Donc, c'est-à-dire, lui, il dispose des produits. Peu importe la façon où les investisseurs peuvent venir, c'est un produit que vous disposez et que les investisseurs en ont besoin pour l'exploiter. Vous mettez votre condition, vos conditions d'exploitation, c'est-à-dire les conditions d'exploitation, vous voulez que cela puisse alors être 50-50. C'est un partenariat gagnant. Celui qui viendra avec son argent, il va mettre à l'eau son argent. C'est-à-dire, en mettant, en misant son argent, il verra s'il ne saura pas mettre son argent pour gagner quelque chose, il le fera. Et l'État congolais trouvera tout à l'heure d'autres bénéficiaires hein, pour ce cas d'investissement. Pas de tout, pour moi, je suis d'accord que l'État congolais tout à l'heure réunissait ses contrats.
Merci, Célestin. Vous êtes à Kinshasa. Vous estimez que l'État dispose de ses produits et en tant que tel, l'État devrait bénéficier, n'est-ce pas, de l'exploitation. Ouais. Quel que soit le niveau d'investissement, il faudrait que l'État puisse bénéficier. Le partenariat doit être gagnant-gagnant parce que vous êtes investisseur, vous avez des moyens, l'État a les produits, il faudrait que chacun se retourne. Et là, Célestin, je crois bien qu'il faudrait peut-être, comme le disaient d'autres compatriotes, une discussion, n'est-ce pas, entre les opérateurs miniers et le gouvernement pour trouver les justes milieux, une solution qui puisse satisfaire tout le monde, que ce soit les investisseurs, que ce soit l'État qui a aussi besoin de bénéfices dans l'exploitation de ces produits.
Ah ouais. Moi, je suis d'accord, mais il y a d'autres auditeurs qui sont en train de dire que la façon où le top peut peut-être revisiter ce code minier, ça va faire pour les investisseurs. Non, moi, je ne dis pas que c'est ça. Aujourd'hui, là, si vous sécurisez ton argent et que vous pouvez même alors. Vous ne trouverez absolument rien comme bénéfice dans ce que vous avez eu à ces objets. Mais si vous investissez, mais peut-être les investisseurs là, investir ne fiche que ce qu'ils disposent. Et que s'il y a même alors un 10% dans ce que vous avez misé, mais c'est pas un bénéfice. C'est plus un bénéfice. Bon, moi, je suis en train de parler non pas comme un maître avocat. Je suis en train de parler comme un opérateur économique. Donc, je suis en train de voir l'État maintenant dans la position de quelqu'un qui détient. Quelque chose, une matière précieuse où tout le monde est en train de vouloir normalement s'en acquérir. Donc moi, je ne trouve pas qu'il y aura un problème de fuite des investisseurs qui vont refuser. Ça, c'est un faux débat pour moi. Donc, merci, le problème merci. Est simple. Et ça va révisiter ce code minier. Nous aurons toujours alors des investisseurs. Et on aura toujours.
Voilà, merci beaucoup. Célestin, vous estimez que l'État, en tant que détenteur de ces produits, quel que soit la révisitation du code minier, il y aura toujours des investisseurs, mais il faudrait discuter autour de en termes de marché gagnant, et c'est pas possible que les investisseurs puissent fuir les pays parce qu'ils estiment que le pourcentage des bénéfices qui doit revenir à l'État congolais puisse aller au-delà de leur investissement, mais il faudrait arriver à un marché gagnant. 081 890 73, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous êtes nombreux, là vous êtes ainsi nombreux aussi qui êtes en train d'appeler sur notre standard, gardez patience, c'est un petit souci de liaison téléphonique. Vous allez intervenir d'un moment à l'autre. Peut-être que les députés Patine Koulou qui nous a rejoint tout à l'heure, on a des petits soucis des lignes, il pourra peut-être nous rappeler avec un autre réseau, ça peut permettre à ceux qu'il intervienne sans beaucoup de difficultés. Nous avons Olivier qui nous appelle des circuits. Olivier, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Et dites-nous, aujourd'hui, vous êtes dans quelle province, effectivement, Olivier?
Je suis dans les Bandundu et Pessimac.
Voilà, parce qu'après le démembrement, je crois, les auditeurs commencent aussi à s'habituer petit à petit avec les nouvelles appellations.
Ok, moi c'est le Kulu alors, donc c'est la province du Kulu.
Voilà, Kikui, c'est dans les Kulu. Merci beaucoup, on va s'habituer petit à petit, parce qu'il faudrait aussi du temps pour localiser nos villes, nos localités, nos territoires avec les nouvelles provinces. Alors, vous avez suivi les autres depuis le début de cette émission, Olivier, quel est votre point de vue?
Ok, moi je pense que le premier problème, c'est de révisiter, parce que ça fait des années qu'on a toujours modifié ce code, et la République ne se retrouve pas. C'est un problème d'abord de personnes. Ce sont ces personnes qu'il faut d'abord essayer de revisiter. Alors, dans les codes élaborés aujourd'hui, le contrat social, pour moi, je crois que c'est une déviation. On ne peut pas demander aux investisseurs de commencer à venir construire les écoles, et ceci et cela, parce que nous avons vu, là où on a construit des écoles, là où on a fait des routes, c'est du n'importe quoi. Donc, ça, c'est la charge de la République. Ce n'est pas ce que c'est du Japon, qui viendra nous définir une école et un centre de santé. Donc, je pense que on devrait supprimer d'abord cette histoire de contrat social et demander à l'État de prendre ses responsabilités comme il se doit. Alors, il est vrai qu'on doit voir effectivement quel est l'intérêt de la République dans tous ces contrats. Et ça ne demande pas qu'on aille qu'on aille au Japon ou qu'on aille aux États-Unis, il suffit qu'on prenne des hommes dignes de ce nom, des patriotes, et vous prenez des personnes qui sont sciencieuses, et vous verrez que la République, un temps soit peu, va refuser de tout intérêt pour son développement. Mais j'insiste, on ne doit pas demander aux investisseurs de faire.
Merci beaucoup. Merci Olivier, mais là, il y a eu détérioration de la qualité des lignes entre circuit dans les Kulu et Kinshasa. Mais vous dites que le problème aujourd'hui, c'est pas la révisitation du code minier, mais c'est plutôt la révisitation des hommes qui s'occupent de la gestion du code minier. Et c'est pas aussi important qu'on puisse exiger aux entreprises qui investissent dans les secteurs miniers de pouvoir signer un contrat social avec la population. Il revient à la population, plutôt à l'État, avec les redevances qui sont payées par les investisseurs, et l'État doit construire des écoles et résoudre le problème de la population locale au niveau où les minéraux sont exploités, mais c'est pas plutôt à ces sociétés de les faire. Et d'un côté, vous souhaitez que les gens soient tout simplement patriotes et consciencieux, et la question sera résolue. Merci beaucoup. Nous avons un mandataire en ligne qui nous a rejoint dans cet échange de Demopassa. Vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir appelé pour contribuer dans cet échange. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Capi.
Oui, bonjour et merci de m'avoir passé la parole. Moi, je pense que la question du mine, des fois, on en parle comme si c'était un investissement d'ordinaire. Le mine a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. On peut en avoir si vous n'avez pas de capitaux, vous n'avez pas de technologie, rien ne peut se faire. La preuve est que la MIBA est là avec plein de diamants, ça n'avance pas, il n'y a pas de capitaux. Et les gens oublient, nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir du cuivre. Donc, les investissements chez nous doivent être attrayants. Les investissements chez nous doivent intéresser les capitaux qui existent au monde pour venir chez nous. C'est comme ça que le point de vue de la SEC reste vraiment attentivement à analyser. Parce que l'État congolais, pour avoir un cuivre produit fini, on a besoin de l'électricité. Vous savez ce qui se passe au pays pour l'électricité. Qui va venir investir en attendant l'électricité où il investit? Et en électricité, en route, en santé, sociale et tout. Et enfin, pourquoi gagner? Qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller malinement avec des techniques qu'il faut. Et la visitation, pour moi, ce n'est pas la bienvenue. Parce que 10 ans durant, ou 12 ans, 11 ans, on n'a pas appliqué correctement les codes miniers. On a violé les codes sur toutes les lignes. Alors, le résultat que ça a donné, c'est normal de part et d'autre, ce qu'on est de ce genre de débat. Révisiter, pour moi, veut dire pas changer, mais une nouvelle lecture pour demander à l'État d'appliquer correctement, d'éviter des interférences. Donc, à ce moment-là, on peut évaluer les 10 ans d'aide, l'article dit même, c'est une évaluation qu'on doit faire 10 ans après pour voir la possibilité d'améliorer X, Y conditions du travail. Donc, moi, je pense que ce code doit demeurer, mais les discussions doivent être autour de comment faire pour améliorer ces choses-là et attirer encore des investissements. Au départ, on avait 400 et quelques carrés miniers vendus, mais combien sont venus investir? 3 ou 4 entreprises seulement. Est-ce que vous le savez? Pour un total peut-être de 10 milliards. Mais les 10 milliards aujourd'hui, c'est ça qui a fait les bâtiments de qu'on a inauguré hier. C'est ça, les 10 milliards qui est venu des investisseurs, ils ont fait tout ce qu'on est en train de faire à nos câbles, et même la croissance qui va jusqu'à 8, c'est dans le domaine minier, pour le peu, les 30% ou les 20% qui ont accepté d'investir au Congo. Donc, je pense qu'on doit faire une bonne lecture pour ne pas faire chasser aussi l'investisseur. L'investisseur, c'est l'œuf au jour d'aujourd'hui. Il y a la crise mondiale, l'argent ne va pas n'importe où. Ça, il faut le retenir.
Oui, mais disons pour ça, si il y a eu beaucoup de pression, on se rappelle bien au niveau de la société civile, on est revenu plusieurs fois dans le débat, même dans cette émission, où on estimait que dans sa configuration actuelle, les codes ne profitaient pas à l'État ni à la population, plus aux investisseurs. Les investisseurs estiment qu'il faudrait garder les codes dans l'État où il est aujourd'hui. Mais est-ce qu'au niveau, que ce soit du gouvernement, des exploitants dans les secteurs miniers, de la société civile, y a-t-il des discussions franches, vraiment aujourd'hui, des discussions sincères où on analyse les faiblesses du code, on pose des pistes, des solutions, ou on risque de se retrouver dans le sens où le gouvernement va aller au Parlement, on discute, on a les codes, les investisseurs estiment qu'ils ne nous profitent pas. Mais est-ce qu'il y a-t-il aussi aujourd'hui des cadres, des discussions franches entre les investisseurs, le pouvoir public et tous les autres les opérateurs qui interviennent dans le secteur minier? Dédé Moupassa, voilà, dommage, on l'a perdu alors qu'il y avait cette question autour de discussion qui pouvait se faire entre les investisseurs dans le secteur minier. Peut-être si on pourra les récupérer pour répondre à cette question, lui qui est mandataire en mine. Merci. Il y a même de votre intervention ici à Kinshasa. On pourra voir si c'est possible de relancer cette question. Mais en attendant, Joséphine nous appelle de Boston aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange, madame. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi. Je vais dire ceci, tout en grandissant à Lubumbashi, et que dans le temps les Katanga étaient connus comme une région minière, tout le monde, nous tous, tout le monde, les parents travaillaient soit à la Gécamine, soit à la FNCZ, soit. Toujours c'était la Gécamine partout.
Mm-hmm.
Mais comme j'ai déjà dit dans cette à la radio Okapi, Mobutu, dans le temps de Mobutu, il avait fermé le Congo. Et puis après lui, le gouvernement qui est venu, le président qui est venu, il a ouvert le Congo sans pour autant savoir entrer dans l'étude ou bien pour se poser la question pourquoi Mobutu avait fermé le Congo. Moi, je crois que Mobutu a envoyé de Congolais pour aller étudier à l'extérieur. Et il fallait se demander où sont ces Congolais-là, des experts, et le mettre avec les investisseurs pour discuter de ces contrats miniers. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. On a pris des gens qui ne connaissent rien. Parce que moi, je vais dire, ils ne connaissent rien. D'après les informations que j'ai lues sur Congo Siasa nous dit, il parle de mines de Congo. Quand un investisseur vient investir dans les mines congolais, on lui fait payer la taxe à l'avance. Donc les mines, les investisseurs, là, ils ont déjà payé même la taxe. Et ils signent des contrats de 20, 30, même 50 ans. Chose qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, je vais conclure pour dire que j'ai rejoint mon ami qui a appelé. Il n'y a pas à ré-signer encore, à revoir les contrats miniers. Il faut revoir les gens qui ont signé les contrats miniers. Il faut revoir ces gens-là. Parce que dans ce monde de business, il n'y a pas moyen de rouler les gens.
Mm-hmm.
Quand vous dites que vous voulez revoir les contrats miniers avec les gens, et les investisseurs avec qui vous avez déjà signé 20 ans, et puis ils ont déjà même payé la taxe sur les contrats miniers. Fait que vous voulez les rouler. Alors vous devez vraiment revoir les gens qui ont signé les contrats miniers, les changer. C'est avec eux que vous allez parler. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame. Vous estimez que dès lors qu'il y a deux sociétés qui ont déjà signé des contrats d'exploitation, d'exploration, d'exploitation pour 20, 30 ans, avec le code minier dans sa forme actuelle, et que vous puissiez revoir les codes en revoyant aussi les bénéfices, par exemple, de l'État, c'est comme si vous voulez rouler ces personnes qui ont déjà investi, qui ont déjà payé des rédevances aussi en avance pour avoir des concessions d'exploitation. Et vous estimez que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de revisiter le code minier, mais c'est plutôt de revoir les hommes, la façon de travailler. Notre intervenant juste tout à l'heure, Dédé Moupassa, qui vient de nous rejoindre encore parce qu'il y avait une question de relance que nous lui avons posée par rapport aux discussions, et vous estimez que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait travailler. Merci beaucoup, madame, de nous avoir appelé de Boston aux États-Unis d'Amérique. En attendant, Dédé Moupassa garde la ligne, le temps qu'on écoute Gaston qui est ici à Kinshasa, on va revenir à lui. Gaston, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Merci, à vous aussi. Bonjour, Pierrot. Je pense que le problème, c'est parce que l'État congolais a revu à la hausse l'impôt. Mais je pense qu'il n'y a pas un problème aussi, parce que ça, c'est un domaine de la souveraineté d'un État. Mmh. Ailleurs, il y a des pays revoir à la hausse aussi la TVA. Donc je veux dire tout simplement que même l'organisation l'OADA ne s'insère pas dans ce domaine ici de la fiscalité. C'est l'État qui est censé déterminer qu'est-ce qu'il peut percevoir par rapport aux droits qu'il a en tant que cela. Je pense qu'il ne faut pas faire un débat, mais le problème aussi, c'est au niveau de l'État lui-même. Moi, je pense que l'État congolais n'est pas un État gendarme. Ça signifie des États au sens moderne, des États qui sont des États interventionnistes, dans des États qui font les commerces, qui participent dans la vie. Imaginez que notre État attend seulement à percevoir les impôts, les taxes, les droits d'exploration, d'exploitation. Moi, je pense pas que c'est à ce niveau-là que notre État devrait se situer par rapport à ces énormes ressources que nous avons. L'État devrait lui-même participer pour en tirer profit. Participer, par exemple, dans des entreprises mixtes, qu'on voit la participation de l'État congolais. Mais notre État se contente de parler de la sécurité, de l'unité nationale. Pourtant, ce sont des attributions régaliennes. Actuellement, les États, ce sont des États interventionnistes. Si, par exemple, ils laissent la responsabilité aux individus, ou à d'autres États de venir exploiter ici. Donc, les explorations, et même fond, l'exploitation va à la transformation. Nous, on se contente de quoi? Parce que, imaginez que ces États-là disaient que non, vous avez vos matières premières, faites tout ce que vous pouvez faire avec. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que jusque-là, on se limite seulement au niveau de percevoir les droits. Ça, c'est les droits coutumiers, même les coutumiers percevaient ces droits que nous contentons de ça aujourd'hui.
Et alors là, Maître Gaston, vous souhaitez, Maître Gaston, que l'État puisse aussi investir dans les secteurs, pourquoi pas participer dans les entreprises mixtes, hein, et l'État ne pourrait pas tout simplement rester à percevoir le redevance. Merci beaucoup, Maître Gaston. Nous revenons à vous, Dédé Moupassa. Tout à l'heure, je vous posais la question, vous qui êtes mandataire à Mines, s'il y a des discussions claires aujourd'hui engagées entre l'État congolais, les investisseurs dans le secteur minier et les autres intervenants pour arriver à harmoniser le point de vue par rapport à la réalité de ce code minier, soit sa réalisation, soit son application. Vous qui êtes dans les domaines, s'il y a vraiment des discussions comme ça entre le pouvoir public et les autres intervenants dans le secteur minier.
Oui, il y a cette ouverture, surtout dans ces contrats de partenariat privé, l'État et le privé. Il y a même toute une commission qui continue à discuter avec le ministère de plan pour voir l'environnement des affaires au Congo. Donc, on est en discussion à tout moment, à tout bout de champ. Vous savez, par exemple, les problèmes de l'électricité. Les miniers sont en train de participer pour voir comment améliorer l'énergie, parce qu'ils en ont besoin. C'est une matière première, mais ça vient toujours pas. Ça fait des années qu'on se bat. Il y a des usines qui devaient être mises en place, démarrées, mais on ne sait pas le lancer à cause de l'énergie. Bon, l'État n'a pas d'argent, je ne sais pas de quel État les amis sont en train de parler, qui devait jouer à savoir un peu quelle est notre potentialité minière en termes de ressources. Ça, c'est des travaux énormes, mais l'État n'a pas d'argent. Avec un budget de 4 milliards ou 5 milliards, 10 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire comme exploration? C'est difficile. L'État est en difficulté. Les gens doivent comprendre cela. Donc, nous continuons à discuter et les opérateurs savent comment les choses se passent et qu'est-ce qui peut être fait. Une prise en charge au niveau des opérateurs miniers, c'est comme ça que de temps en temps, ils interviennent. Mais l'impôt, c'est vrai, l'État est souverain d'ajouter ou d'augmenter tel ou tel autre impôt, mais ça doit être dans le respect de la loi. Mm-hmm. C'est pas que parce que c'est souverain, on se réveille le matin, on dit un produit doit sortir, la loi prévoit 1%. De redevance, vous dites non, on a besoin d'intervenir à tel hôpital ou d'écrire des hôpitaux, on augmente le matin. Non, ça c'est ça qu'on dit la violation du code. Et on a violé tout au long de ces 10 ans, comme cela, matin, midi, soir, au niveau des autorités, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Il y a des taxes qui n'étaient pas prévues, qu'on a bousculé les miniers. Et tout ça, les miniers ont supporté, mais les gens qui ne pouvaient pas, ils sont repartis. Et nous, aujourd'hui, on doit faire des sortes pour vendre notre pays autrement, en termes de la paix. Ça, c'est du côté politique, du côté de l'armée, du côté de la sécurité. Et c'est très important. Il y a l'argent qui circule au monde avec cette crise. Il faut que ça tombe chez nous. Que vous voyez au moins 10 ou 15 investisseurs qui veulent reprendre des MIBA.
15 ou 17 investisseurs qui courent autour de la gétamine. Et ainsi de suite. C'est à la barre qu'on peut faire de l'orgueil, on peut remettre la barre très haut. Mais pour l'instant, je pense
merci.
Que les codes sont valables et les discussions, pour revenir à votre question, les discussions sont continuelles. On a un cadre de discussion, mais alors, comment les résolutions que nous prenons, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que tout le monde maintenant est vers une révision et là, les projets déjà au Parlement, si vous le savez.
Oui, c'est juste ce que nous avons annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup, Dédé Moupassa. Vous êtes mandataire ami. Merci pour tous ces témoignages. On va terminer avec vous, Willy. Vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Willy, vous avez suivi les uns et les autres en une minute hein, pour terminer cet échange. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Moi, j'interviens essentiellement sur un petit point parce que j'ai suivi tout le débat. Il a été enrichissant des uns et des autres. Moi, je pense que lorsqu'il y a un texte, le code minier, c'est un texte qui régit les parties. Et en matière d'investissement, c'est un terrain très, très, très sensible. Je pense que tout dépend même de la santé de la politique de ce pays. Les investisseurs, on ne peut pas jouer avec ces gens là-bas. Donc, il y a des investissements. Nous devons les garantir aussi quelque chose, quelque part. Mais s'il n'y a pas de garantie, même au niveau du texte, dès le départ, parce qu'il est dit qu'il faut revisiter ce texte dans une période de 10 ans, des ans, 10 ans, 12, alors il ne faudrait pas tripoter. Donc il faut asseoir qu'il y ait une bonne assise d'abord dans le texte, côté juridique. Lorsque le côté juridique est assaini, je crois que le reste, ça sera facile. J'ai suivi quelqu'un d'autre à dire quelque chose qui m'a beaucoup piqué. Moi, je pense qu'à un moment donné, avec l'ICIE, on demandait de pouvoir publier ce que l'on payait. Si tous ces opérateurs miniers peuvent ne plus que publier tout ce qu'ils payent à l'État. Moi, je crois que la population peut maintenant connaître un peu la vérité.
Voilà.
Aujourd'hui, si on croit.
Merci beaucoup, Willy. Dommage de s'en parler. Merci beaucoup, Willy. On ne sera pas les plus loin parce que vous avez évoqué l'ITIE. D'ailleurs, on a eu le professeur Magnouba dans cette émission qui a dit aujourd'hui, au niveau de l'ITIE, même sur le site, on peut avoir clairement tout ce qui a été payé dans l'exploitation minière. Merci, les débats étaient très, très importants. Merci à tous les compatriotes qui sont intervenus. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jacques Lonsala. Était à la mise en onde de Julie César Bongonda, assuré la réalisation et Pierrot et la Meijoula, présenté sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain à 11h30 heure de Kinshasa pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.